Bonjour, bonjour, Yves, au micro-micro de 24 notes secondes pour une nouvelle émission. Je ne dérogerai pas à la tradition en vous rappelant que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent sur les grands écrans, les petits, un peu tout ce que vous voulez. Après tout, ce jour, et j'ai décidé d'être tolérant. Ce jour, eh bien pas de compositeur, pas d'actrice, pas de réalisateur confirmé, mais juste une thématique qui nous emmènera dans cette bonne ville de Rome, la ville aux sept collines qui, peut-être pas autant que Venise, Paris ou New York, mais qui a quand même été l'enjeu de beaucoup de tournages. Et donc, on va juste évoquer, eh bien, en passant, quelques films bienvenus et qui ont pour particularité de se passer au moins en partie à Rome. Et il était difficile de ne pas faire, donc autant la commencer avec lui. Donc, il était difficile de ne pas faire une émission sur Rome au cinéma sans évoquer Federico Fellini, qui n'était pas romain, comme ceux qui ont vu les Vitelloni le savent, mais qui a fait de Rome, eh bien, d'une certaine manière, sa ville d'élection. Il l'a beaucoup tourné, il l'a même tourné de manière fantasmatique, on va le voir. Et on va écouter eh bien, deux extraits de deux films de Fellini, en commençant certainement par l'un de ses chefs-d'œuvre, et certainement le film où la ville de Rome est la plus magnifiée. Vous l'avez sans doute deviné, c'est la Dolce Vita, un film tourné en 1959, avec dans les principaux rôles Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée la Délicieuse et Alain Cuny, un film où l'on voyait Marcello, qui s'appelait d'ailleurs Marcello dans le film, Ecco, comment pouvait-il en être autrement, suivre pendant sa tournée promotionnelle une actrice sculpturale, peut-être même trop sculpturale, incarnée par Anita Ekberg dans le rôle de Sylvia. Et on voit encore ce genre de choses où les acteurs ou les actrices américains viennent parader dans les villes européennes où ils font une tournée en dévoilant parfois un sein, par mégarde, paraît-il, pour être sur les réseaux sociaux maintenant, mais dans les années 60, eh bien, il y avait les paparazzi. Le mot, d'ailleurs, a été inventé par Fellini lui-même pour décrire ces nuées de photographes et journalistes qui suivent les vedettes à l'affût du moindre écart. Et dans la Dolce Vita, et après, on écoutera un extrait de la bande originale de Nino Rota pour rester sur notre thème romain, personne n'aura oublié Anita et Marcello, et bien tous les deux dans la fontaine de Trévise, qu'il a comme ça sur la photo promotionnelle que j'ai devant les yeux de ma petite fiche, ai-je besoin de vous le rappeler, paraît immense, mais qui en fait est toute petite, sur une place qui elle-même est toute petite, et dans laquelle on voit maintenant des touristes américains obèses jeter de dos une pièce pour que leur vœu soit exaucé. Nous sommes loin de Marcello et Anita, revenons-y en écoutant un extrait de cette bande originale, la Dolce Vita de Nino Rota, bien sûr, et dans 24 notes secondes, évidemment. Thank you. La fausse simplicité enfantine de Nino Rota, pour un extrait bien sûr de la Dolce Vita de Federico Fellini. C'est allègre et dramatique à la fin, et bien un peu comme le film. Alors dans les années 60, c'était une dénonciation de la frénésie médiatique plutôt bienvenue et élégante. Je ne sais pas ce qu'on pourrait dire aujourd'hui de son équivalent. En tout cas, il n'y a pas le cinéaste comme Fellini pour tourner l'obscénité, pardonnez-moi du terme, l'obscénité actuelle. On va plutôt rester avec Fellini, on va plutôt rester dans les années 60-70 avec un autre film dans lequel Rome est à l'honneur, qui s'appelle d'ailleurs tout simplement Fellini Roma. Donc pour une émission comme la nôtre, c'était plus que bienvenu, où on voit une sorte d'alter ego de Fellini, incarné par un acteur qui depuis n'a pas percé, Peter Gonzalez, débarqué à Rome quelque part dans les années 30. Alors au départ, ça ressemble vaguement à une autobiographie de Fellini, et après ça devient tout et pratiquement n'importe quoi, mais d'une manière si poétique, avec une série de sketchs que personne n'a oublié. Par exemple, ses travaux dans un parking où on dévoile brusquement une fresque romaine qui est immédiatement balayé par l'air contemporain qui pénètre, je dirais, dans un espace inviolé depuis l'époque romaine. C'est absolument saisissant. Il y a quelques images qui vous résument toute une vie en quelques images. Il y a aussi, sauf erreur de ma part, c'est cette partie-là que nous allons musicalement écouter, un défilé de mode pour évêque, qui est une scène absolument gigantesque. Bref, tout est gigantesque dans ce film, qui est à la fois une déclaration d'amour et de haine par Fellini. Et à la fin du film, je me souviens l'avoir vu il y a très longtemps et ne pas avoir oublié cette scène finale où on voit une lugubre cohorte de motocyclistes anonymes, bottés, casqués, qui ressemblent à des fascistes qui s'éloignent sur un périphérique désert. Et c'est à la fois terrifiant et onirique. Oui, je n'aime pas les motards, il faut bien le dire. Terrifiant et onirique, et en tout cas tellement félinien. C'est vraiment Fellini Roma, une quintessence félinienne avant peut-être, on pourra en juger chacun comme on voudra, avant peut-être que le cinéaste ne sombre parfois dans une caricature de lui-même dans certains de ses films ultérieurs. On va rester avec Fellini Roma, on va rester évidemment avec Nino Rota. Fellini Roma dans 24 notes secondes.
Thank you.
magnifique partition de Nino Rota pour le Fellini Roma. De Fellini, ai-je besoin de le préciser, une petite merveille de 1972, un film excentrique, fourre-tout, génial et provoquant, bref, à voir et à revoir, surtout que aux côtés de Nino Rota, eh bien, il y avait les collaborateurs habituels de Fellini comme Giuseppe Rotuno à la photo ou Danilo Donati au décor et au costume. Alors, c'était bien la scène du défilé de mode des évêques dont nous écoutions la musique. Que dire ? Rien, il faut le voir tout simplement. On va rester avec Rome, mais on va être dans un genre tout à fait différent, puisqu'on va maintenant écouter un extrait de la bande originale d'un film beaucoup plus ancien, de William Wyler, tourné en 1953, et qui s'intitulait tout simplement Roman Holiday, en français Vacances romaines. Et on y voyait eh bien, la délicieuse Audrey Hepburn dans le rôle d'une princesse un peu fatiguée de son rôle, s'échapper pour tomber dans les bras, mais en toute... tout honneur de Joey Bradley, un journaliste incarné par Gregory Peck, qui était une sorte de paparazzi, mais un bon paparazzi, forcément, il s'agit de Gregory Peck. Évidemment, ces deux-là avaient une petite romance, évidemment, lui gardait précieusement pour lui les photos compromettantes, enfin, vaguement compromettantes qu'il avait prises. Quant à elle, elle retrouvait à la fin du film son rôle si pesant de princesse. Bref, là, comme ça, je le reconnais, ça a l'air gnangnan, mais ça ne l'était pas du tout. C'était un petit chef d'œuvre et ça reste un petit chef-d'œuvre. Alors, le plus étonnant, c'est que pour Audrey Hepburn, eh bien, ce fut le film de sa vie. Avant cela, la jeune actrice de 22 ans à l'époque, elle avait peu tourné et elle fit un casting avec William Wyler, un réalisateur déjà aguerri en 1953. Puis ensuite, elle partit à New York où, à l'instigation de Colette, elle fut l'héroïne d'une comédie musicale adaptée de Gigi, de cette même Colette. Ensuite, elle revint à Rome pour tourner le film pour lequel elle avait été retenue durant l'été 1952. Le film, il était entièrement tourné à Rome, alors d'abord dans les rues de Rome et pour les scènes d'intérieur à Cinecittà, bien sûr, studio bien connu aussi des amateurs de Federico Fellini. Et puis ensuite, eh bien, en 1953, pour son premier vrai grand rôle, elle obtint tout simplement l'Oscar de la meilleure actrice. La suite, je vous l'ai peut-être déjà raconté, là encore, les fidèles de 24 notes secondes savent combien Audrey est dans mon cœur. En fait, elle n'est pas dans mon cœur, elle est là, perchée sur mon épaule comme un ange, je ne plaisante pas. Et on écoute, pendant que je ne plaisante pas, un extrait de la bande originale signée Georges Auric de ce film, 24 Vacances romaines dans 24 notes. Vous voyez, pardon Audrey, j'en bafoue. Voilà la bondissante partition de Georges Auric pour Les Vacances romaines de William Wyler, un film de 1953 qui révélait, presque au sens christique du terme, d'où mes bafouillements dont je vous prie de m'excuser, la délicieuse Audrey Hepburn, princesse Anne, la vraie princesse Anne à jamais, et qui, eh bien, trouva là non pas le rôle de sa vie, parce qu'elle en eut bien d'autres ensuite, mais l'occasion de sa vie de devenir la grande actrice qu'elle était, qu'elle a toujours été et qu'elle sera toujours, n'est-ce pas, Audrey ? Voilà, on va peut-être passer à autre chose en écoutant à nouveau un extrait d'un film qui se passe à Rome. Alors là encore, j'ai parlé de Fellini en disant que c'était le cinéaste romain par excellence, même s'il n'y était pas né. Sauf erreur de ma part, c'est le cas d'y être né du cinéaste qu'on a évoqué maintenant, en l'espèce Nanni Moretti, bien connu et dont, sauf erreur de ma part, là encore, tous ou presque, sauf La Chambre du Fils, tous les films se passent à Rome, justement, et qui a fait de Rome, eh bien, une sorte de personnage à part entière de tous ces films. Donc, on aurait pu choisir, entre guillemets, n'importe lequel, mais peut-être l'un des plus connus, eh bien, c'est Journal Intime, un film tourné en 1993, un film à sketch. Alors, je vous l'accorde, il y a trois sketchs et le deuxième se passe dans les îles éoliennes et non pas à Rome, mais sauf erreur de ma part encore, et après j'arrête. Le premier et le troisième, si, et le premier, eh bien, c'est la fameuse balade en Vespa de Moretti, qui parcourt les rues de Rome quelque part au mois d'août dans une ville à moitié déserte, ce qui paraît peu crédible quand on est déjà allé à Rome. On a du mal à imaginer que la ville puisse être à moitié déserte, ou plutôt, si on pouvait le savoir à l'avance, c'est justement là qu'on irait réserver dans un hôtel. Mais bon, ce n'est pas grave, en même temps c'est Rome et puis c'est Nanni Moretti, donc lui peut se le permettre. Et donc, au hasard de ses rencontres, eh bien, il va sur la tombe de Pier Paolo Pasolini, ou plutôt, pardon, à l'endroit où Pasolini, quelque part à Ostie, a été assassiné dans des circonstances toujours non élucidée. Et puis à un moment, et on ne sait pas si c'est provoqué ou si c'est le hasard, eh bien, Nanni Moretti rencontre Jennifer Beals. Mais oui, il rencontre Jennifer Beals, mais vous ne l'avez pas oublié, c'est celle de Flashdance, l'apprenti soudeur du Milwaukee qui chante sur une musique. Non, je ne vais pas le faire, mais peut-être que vous n'avez pas pu oublier les collants moulants de Jennifer Beals. Quand on les voit à un certain âge, eh bien, c'est comme Woody Allen, on aimerait être les collants moulants de Jennifer Beals. Et donc, à cette occasion-là, Nanni Moretti, lui aussi, lui crie son amour. On t'aime, Jennifer. Bref, un grand moment d'un film intime, comme son titre l'indique, mais tout à fait dans l'esprit de Nanni Moretti, toujours à la fois très drôle et très critique. Allez, on écoute un extrait de cette bande originale, de la bande originale de ce film. Elle est signée de Nicola Piovani. Ça s'appelait en italien Caro Diario, en français Journal Intime, et l'émission c'est 24 notes secondes. Petite balade de Nicola Piovani pour accompagner, pardonnez-moi, Nanni Moretti dans les rues de Rome, journal intime, un film de 1993. Rome, notre héroïne de ce jour, forcément c'est une ville, c'est une femme. Et on va se quitter avec un film tout à fait différent. En l'espèce, un épisode de 007 qui s'appelle Spectre, pour revenir aux fondamentaux. Un film tourné, j'ai pas la date là comme ça, mais c'est pas si grave, en 2015, tiens, déjà, dans le rôle principal, il y avait évidemment de James Bond, Daniel Craig à ses côtés en méchant. Il y avait Christopher Waltz qui jouait le rôle de Blofeld. Là encore, les fondamentaux pour ceux qui connaissent la saga James Bond. Il y avait aussi Léa Seydoux, Monica Bellucci, dont les mauvaises langues disent qu'elle était la James Bond girl la plus âgée de la saga. À cela, je réponds, c'est pas délicat. Le film ne se passait pas entièrement à Rome. Si vous voulez mon avis, d'ailleurs, la meilleure séquence d'ouverture, elle, se passait à Mexico pendant la fête des morts. Le reste était, disons, à la Daniel Craig. On aime ou on n'aime pas, surtout quand on a connu Sean tout petit. Mais ma foi, la musique, elle était signée de Thomas Newman, un collaborateur attitré du réalisateur, l'intellectuelissime Sam Mendes. Et on écoute un extrait de cette bande originale, Spectre, 24 notes secondes. James, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. See you. Ah, bye bye.